Alléluia. Un grand merci au pasteur Christophe et à toute l'équipe de louanges. J'ai un message pour vous ce matin. Je pense que Dieu a un message pour vous ce matin. Et on va ouvrir ensemble notre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 19. Alors je vais demander par contre à s'il y a des enfants qui ne sont pas encore au collège dans la salle, de ne pas hésiter à descendre en bas. On va vous mettre un DVD, c'est sur la vie de Moïse et le prince d'Égypte, puisque le sujet de ce matin peut comporter un thème assez choc, puisqu'il s'agit de Lot, donc il y a des passages crus, un peu difficiles pour des enfants. Donc je demande vraiment aux parents de qui ont des enfants qui ne sont pas encore au collège de ne pas hésiter à les amener en bas. Il y a des animateurs exceptionnellement qui ont prévu pour eux quelque chose en cet instant. On ouvre ensemble notre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre donc 19 et au verset 30. Le thème de ce matin que j'ai sur mon cœur, ça va être très très concret ce matin, je pense, par rapport à votre vie, par rapport à ma vie. Il ne se passe pas toujours grand-chose dans notre vie, en vérité. Ce n'est pas tous les jours des retournements de situation. En général, on se lève, on aime notre Seigneur, on prie, on va au travail. Vous avez la famille que vous avez le conjoint que vous avez, les enfants que vous avez, vous êtes peut-être seul, vous tenez avec Dieu. Il ne se passe pas beaucoup de choses tout le temps, en vérité. Mais ce que je dois aussi dire, c'est qu'il y a des étapes dans notre vie où un jour tout bascule. Il y a des virages que Dieu nous permet de prendre, qu'on ne voit pas venir. Dans une vie sur la terre, il ne se passe pas grand-chose pendant des mois. Et puis tout d'un coup, un pic d'activité très fort, un moment où Dieu nous parle, où on voit Dieu agir. Moi, je ne prétends pas que Dieu me parle chaque matin. Ce n'est pas toutes les prédications, ce n'est pas tous les temps de louange. Je suis complètement dans la louange en train d'adorer le Seigneur. Il y a des moments où on n'entend pas la voix de Dieu, on n'a pas l'impression d'être proche de Dieu. On fait les choses un petit peu par routine. Mais il arrive également un temps où, pour un message, un dimanche matin, ou pour un temps de louange, pour un moment où vous êtes seul dans votre voiture, où vous priez, tout d'un coup Dieu vous parle, vous voyez la gloire de Dieu, ou bien il se passe quelque chose dans votre famille, peut-être ça peut être au travers d'un accident ou quelque chose de positif, mais Dieu bascule et vous attire à lui, vous tire à lui à ce moment-là. Ne manquez pas cette occasion formidable. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ce jour où ma vie n'a pas changé. Ce jour où ta vie n'a pas changé. » Et on va étudier l'histoire de Lot et de ses filles, parce que Lot n'a pas saisi la formidable occasion que Dieu lui avait donnée, ce tournant incroyable pour rebâtir une vie nouvelle. On lit ensemble dans le livre de la Genèse, c'est un passage assez cru, j'ai jamais entendu dans une église aucun pasteur lire ni méditer ce passage, mais on va oser le faire ce matin, c'est le verset 30, c'est une triste histoire. Quelque temps auparavant, Lot a été sauvé par Dieu, des anges l'ont arraché à la ville de Sodome. Par la suite, Lot quitta Tsoar, car il avait peur d'y demeurer, il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elle dans une caverne. Ça part mal déjà. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé, il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous, selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père et l'aîné vint partager la couche de son père qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici que la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et la cadette alla s'étendre auprès de lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père, c'est l'ancêtre des Moabites, qui existe encore aujourd'hui. La cadette eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, c'est-à-dire fils de mon parent, c'est l'ancêtre des Ammonites, qui existe encore aujourd'hui. Quel gâchis! Quel gâchis! Quel gâchis! Et pourtant, ils avaient la possibilité de repartir différemment. Dieu les a arrachés à Sodome. Dieu est allé, Dieu a envoyé des anges pour les arracher de Sodome. Elles ont quitté Sodome, mais Sodome ne les a pas quittées. Elles ont quitté la ville de Sodome, mais elles ont gardé la mentalité de la ville. Et c'est quelque chose de dramatique. Si je fais le point, je voudrais voir, leur demander à ces trois personnes, à Lot et puis à ces deux filles, « Sais-tu où tu en es aujourd'hui ?» Il y a, dans la vie de chaque être humain, il y a trois aspects. On ne refait pas le monde ne change pas. De génération en génération, ça ne change pas. Il y a trois aspects dans ta vie. Il y a ta vie sociale, c'est-à-dire la vie avec tes amis, la vie au travail. Quand je vous vois en entretien, je commence souvent par là. La vie sociale, la vie du travail, là où tu es, ton appartement, tes voisins proches, tes amis au travail. Voilà, c'est ta vie sociale, ton environnement, avec qui tu passes du temps. Deuxièmement, il y a ta vie sentimentale. Ça, par contre, c'est les personnes que tu as choisies, avec qui tu t'es associé en tant que conjoint, tes enfants. Ça te touche tes sentiments au plus profond de toi, tes parents. C'est la bulle proche, la vie sentimentale. Et il y a un troisième aspect de la vie, c'est ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, elle est composée de deux sous-domaines. Il y a le domaine de ta relation personnelle avec Dieu. Et il y a le domaine de ta relation avec l'Église, qui est l'épouse du Christ, c'est-à-dire avec les autres chrétiens. Alors, vous acceptez ce scan, on va passer la vie de Lot et de ses filles avec ce scanner, et puis on va passer aussi la nôtre, pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin. Quand je vois la vie sociale de Lot et de ses filles, je me dis, c'est bien triste, ils sont dans une caverne, ils sont isolés. C'est comme si le diable les avait bloqués dans cette caverne. Et le diable, alors que Lot aimait être sociable, puisqu'il s'était installé justement dans la ville pour avoir plein d'amis, etc., il se retrouve, parce que le diable l'a bloqué et l'a chassé progressivement avec des mauvais choix et des non-décisions, il se retrouve bloqué dans une caverne avec ses filles. Vie sociale, zéro. Vie sentimentale pour ses filles, zéro. Il n'y a pas d'homme, dépression, solitude. Et elles sont prêtes, tellement le désespoir doit être présent dans cette caverne, à faire n'importe quoi. Des choses sur lesquelles elles n'auraient jamais pensé. Parce que ça n'est pas arrivé en un jour. C'est l'usure du temps. C'est une souffrance tellement forte qu'elles sont prêtes à commettre l'inceste avec leur père. On est dans le glauque, on est dans le désespoir, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Le diable les a tenues et les a bloquées. Et aujourd'hui, elles font un choix, mais qui est épouvantable. Et combien même elles, on leur en aurait parlé 10 ans avant, elles auraient dit on ne fera jamais ça. Et leur vie spirituelle, je termine cette première partie, zéro. Pas de vie d'église, pas de relation avec Dieu. Peut-être un peu, ils priaient de temps en temps dans la caverne, on ne sait pas. Mais en tout cas, vie d'église, proximité avec des amis qui ont la foi et qui les amènent vers le haut, zéro. Ils sont tout seuls, tous les trois, dans une caverne. Ce n'est pas le plan de Dieu. Alors, je voudrais me placer avec vous devant la parole de Dieu et poser une deuxième question. On s'est dit, mais où est-ce qu'elles en sont? Où est-ce qu'ils en sont? Deuxième question, sais-tu d'où tu viens? Si je vois cette jeune fille, là, cette fille de Lot, j'aimerais lui dire, mais est-ce que tu réalises d'où tu viens? Est-ce que tu réalises ce matin ce à quoi tu as échappé? Peut-être certains sont quand vous voyez cette vie-là, leur vie est catastrophique, la mienne est à peine mieux. Mais je voudrais quand même avoir ce regard spirituel sur ta vie. Et le regard spirituel implique de bien réaliser ce à quoi tu as échappé. Parce que quelle était la situation d'avant? Quelle était la vie sociale avant? Alors, on y vient là. On va lire ensemble le livre de la Genèse, chapitre 19. Regardez la vie sociale avant. Verset 1er. Le soir, deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » Vous savez, la vie sociale de Lot, c'est toute sa vie. Question de priorité, si on explique à Monsieur Lot où est-ce que tu viens, il a tout investi dans sa carrière. Lorsqu'il est parti de Mamré, qu'il a quitté Abraham et puis les autres personnes qui avaient la foi, il a dit, je vais assurer ma vie sociale, je vais bâtir ma famille. Il a réussi! Il a réussi parce que ce jour-là, quand il y a les deux anges qui passent et qu'il est à la ville, ça veut dire qu'il fait partie des notables de la ville. Il est boss, il est cadre dans son entreprise. Il a une bonne paye. Il a 4000 euros par mois, il a assuré et même il peut vous présenter la villa. Et la première chose qu'il dit aux anges, regardez, il y a la villa là-bas. Oui, oui, je sais. 8 pièces, oui, oui. Non mais bon, vous savez, on a travaillé hein, et puis bon, ça s'est bien passé. Les affaires marchent bien ici. Le jacuzzi, oui, vous pouvez le jacuzzi si vous lavez vos pieds et tout, il n'y a pas de problème. Bain bouillonnant, oui, oui, j'ai investi l'année dernière, oui. Hein, chéri, c'est bien. Ils ont tout mis dans leur vie sociale. Et c'est leur vitrine, et ils sont contents, ils sont fiers de leur vie sociale. D'accord. Qu'est-ce que ça va t'apporter, ça? C'est bien d'avoir un bain bouillonnant. C'est bien de pouvoir dire, waouh, j'ai réussi. À quoi ça sert si ta vie finit dans une caverne? Vie sentimentale. Moi, je voudrais zoomer sur ces deux filles-là. Vous savez que ces deux filles, elles allaient se marier. Elles allaient se marier et on va lire ensemble le texte qui nous parle d'elles. C'est au verset 12. Donc, on retrouve les deux anges avec la forme d'homme. Hein. Alors, les deux hommes, au verset 12, dirent à Lot, « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils, des filles? Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. En fait, si vous regardez bien en hébreu, plusieurs versions corrigent et mettent ceux qui allaient devenir les maris de ses filles. Mais vous savez, comme les fiançailles en Israël, ça dure... Donc il y a toute une période où vous êtes déjà promis, c'est-à-dire que c'est des fiançailles très très costauds, quoi. Vous êtes quasi mariés. C'est toujours comme ça au Moyen-Orient, des fois. Hein. Et vous savez, vous commencez, vous ne pouvez pas rompre des fiançailles quand vous êtes à une semaine du mariage. Hein. Sinon, il y a des morts dans la famille. Hein. Et du coup, il va voir donc les futurs gendres, là. Donc là-dessus, Lot sortit, elle a trouvé les futurs maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'eau parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, debout, « Emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses deux filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Une fois sorti de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi, il y va de ta vie, ne regarde pas en arrière. » T'arrêtes nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » Verset 18. « Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrais pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risquais d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses ? « Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu me parles, mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu n'y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, c'est-à-dire peu de choses. » Dernier verset, « Au moment où le coucher du soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar, alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par du feu qui venait du ciel de l'Éternel. » Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toutes les populations de ces villes périrent, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Abraham se rendit, etc. Ça, c'est l'autre partie. C'est ce que fait un homme de Dieu. Et on enchaîne sur « Il va vers la caverne » parce qu'il ne voulait plus rester à Tsoar. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Parce que Dieu... ne veut pas limiter ta vie sentimentale à des regrets. Les deux filles de Lot, elles étaient en train de se marier. Et quelque part, lorsque Dieu les a bousculées ce jour-là, elles étaient en train de se marier. Et comprenez bien ce qui se passe. Le drame de ces deux filles, c'est que Dieu les a sauvées. Et je crois que des fois, tu agis comme ça avec Dieu. C'est comme si tu reprochais à Dieu de t'avoir sauvé. Que Dieu ait bousculé ta vie. Que Dieu t'ait sorti de la misère dans laquelle tu étais, mais que tu aimais tellement. Est-ce que vous comprenez? Elles ont subi le salut de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un jour, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas vécu dans l'église un moment très fort avec Dieu. Tu ne peux pas me dire, après tout ce que tu as vécu dans ta vie, que Dieu n'existe pas. Elles ont vu Dieu. Les anges ont été envoyés. Les anges les ont embarqués. Elles ont vu que Dieu était vrai. Elles savent que la parole de Dieu était vraie parce que Dieu avait dit sur Sodome, il va descendre une pluie de feu et la ville va être rasée. Elles ont vu, elles savent que Dieu existe. Tu sais que Dieu existe. Peut-être Dieu t'a sorti d'une situation. Pour elles, c'était ce jour-là, c'est le jour où leur vie a basculé. Ce jour où leur vie a changé. Elles étaient en train de se marier, elles avaient une vie dans une ville pourrie, avec des gens pourris, parce que juste avant, elles ont failli se faire violer, si vous regardez l'histoire. Et elles ont échappé à des choses terribles. Mais vous voyez, elles n'ont pas vraiment quitté la ville. C'est comme si Dieu les a fait quitter la ville. Peut-être que toi, un des problèmes de ta vie, c'est comme si c'était Dieu qui t'a sorti de ta misère. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé des anges pour te sortir de là où tu allais être. Parce que la vérité, c'est que ton mariage, il aurait duré un jour. Parce que l'homme avec qui tu allais t'engager, lorsqu'il s'agissait de parler de Dieu, c'était quelqu'un qui rigolait et qui prenait ça pour des plaisanteries. L'homme avec qui tu voulais t'engager, ce regret que tu as dans ta vie, c'était quelqu'un qui considérait Dieu comme une blague. Alors ne va pas me dire que tu allais bâtir quelque chose de sérieux avec un gars comme ça. Parce que cet homme-là, il t'aurait amené nulle part. Le lendemain, vous étiez cramé à Sodome. La vie de votre mariage aurait été une histoire extrêmement courte. Alors tes regrets, sois objectif sur tes regrets. Si je parle à un homme dans cette salle, sois objectif sur tes regrets. Tu penses à cette vie encore et qu'est-ce qui serait passé si jamais tu t'étais pas, si t'étais pas converti, tu aurais pu effectivement fonder quelque chose avec elle. Rien du tout. Tu aurais eu les mêmes résultats que les gens de Sodome avec elle. Je suis désolé d'être vrai, mais je pense à la part de Dieu, c'est que ça t'aurait mené nulle part. Alors ne sors pas à Dieu la carte de « Regarde, Dieu t'a gâché ma vie parce que tu m'as sauvé ». C'est choquant de le faire. Parce que Dieu y a investi deux personnes et les anges, lorsqu'ils sont allés, ils ont risqué leur peau, les anges. Et je ne sais pas s'il n'y a pas des hommes qui t'ont ou des personnes qui t'ont sauvé. D'ailleurs, ça fait deux fois. Je vais dire la vérité, ce n'est même pas la première fois que Dieu te sauve. Je parle à Monsieur Lot, là. Je parle à toi qui ressemble à Lot, peut-être un homme dans cette salle. Ça fait deux fois que Dieu te sauve ta chemise. La première fois, c'était avec les rois Kedorlaomer et tous les autres. Tu avais été embarqué, tu étais dans une situation impossible. Et Dieu a fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham. Un homme de Dieu, peut-être ta mère, peut-être ta sœur, peut-être quelqu'un dans l'église qui s'est dit « Je veux pas que tu partes dans le monde comme ça. » Lot avait été déjà embarqué dans 1000 kilomètres. Il a fait 1000 kilomètres, il se retrouvait à Damas. Lorsque Abraham et quelques autres personnes chrétiennes, croyantes, des personnes qui aimaient Dieu, se sont dit « On va prendre des risques, on va aller la chercher. On veut pas qu'elle parte dans le monde, je veux pas qu'elle parte dans le monde, je vais aller le chercher. » Et il a envoyé quelqu'un. Et il a réussi à ramener. Merci pour ces Abrahams dans ma vie qui, le jour où je vais pas bien, sont capables de me donner un joker. Dieu permet que tu aies des hommes, je ne sais pas si c'est tes parents, tes proches, si c'est des amis, mais alors que tu es en train de t'enfoncer noir dans le monde, ça t'a ramené. Et ce jour-là, tu as fait une expérience avec Dieu, tu es revenu. Vous savez ce qui se passait à Sodome? C'est que Lot, il aimait Dieu à Sodome. Il était dans une ville dégoûtante, entouré de personnes qui avaient des pensées dégoûtantes, et lui, il essayait de s'en sortir. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2,7, c'est qu'il a délivré, Dieu a délivré Lot, cet homme juste, qui était consterné, profondément attristé par la conduite immorale des habitants débauchés de cette ville. La vérité, ils avaient peut-être un culte de famille. Peut-être que les deux filles, avec papa Lot et maman Lot, je ne sais pas comment elles s'appellent, et ils étaient à quatre, ils faisaient peut-être leur culte de famille en se disant, bon, il ne faut pas qu'on fasse comme les autres. On est dans une entreprise où tout le monde est sale, les conversations sont sales, le monde dans le métro est sale, ce que l'on regarde sur nos affiches, ce qu'on regarde sur Internet est sale, mais on va juste essayer de s'en sortir en famille, on va garder, et c'est pas bien. Et ils avaient gardé une morale, vous voyez, parce qu'ils avaient tellement vu Dieu qu'ils ne pouvaient pas avoir une morale. Ils avaient la crainte de Dieu dans la famille Lot. Mais ils ne se positionnaient pas. Et ils ont raté la deuxième grâce que Dieu leur a faite le jour où leur vie aurait dû changer. Parce que quand les anges viennent et les sortent tous les quatre, ils sont peut-être, ils partent avec rien, mais ils partent pris par la main des anges. Alors, dernier point ce matin. Sais-tu ce que Dieu veut pour toi? Si je devais parler à Lot et à ses filles, je devrais parler au passé. Et j'espère que je ne dois pas te parler au passé ce matin. Sais-tu ce que Dieu voulait pour toi? C'est ce qu'il aurait fallu dire à Lot. Parce que pour lui, c'est trop tard, mais pour toi, ce n'est pas trop tard. On est ce dimanche matin du mois d'août, ce n'est pas trop tard. Ne rate pas les occasions de Dieu. Là, il se passe des circonstances exceptionnelles dans ta vie. Tu es un nouveau tournant de Dieu. Tu es bousculé ce matin. Tu ne vis peut-être pas très bien d'ailleurs ce culte. Tu es bousculé. Profite de ces circonstances pour changer ta vie spirituelle, pour changer ta vie sociale et pour changer ta vie sentimentale. Alors, moi, je me dis que la vie de Lot, spirituellement, aurait pu être meilleure. Mais il y avait deux problèmes qu'il va falloir corriger. Il y a deux problèmes dans ta vie spirituelle qu'il faut corriger. Premièrement, en considérant ta vie dans ta relation avec Dieu. Vous savez, quand on a un défaut, c'est un problème. Mais quand on a deux défauts, c'est trois problèmes. Parce que ça se cumule plus que plus. Et le problème de Lot, premièrement, c'est que c'est quelqu'un qui est immature spirituellement. Et c'est pareil pour ses filles. Et le deuxième problème qui amplifie le premier, c'est que non seulement il est immature, mais il est orgueilleux. Alors quand tu es immature plus orgueilleux, c'est difficile pour Dieu de t'aider à changer. Pourquoi je dis qu'il est immature? Parce que si je fais le point avec vous, Lot a toujours été un gamin spirituel. Les années sont passées, jeune fille, et tu es toujours une gamine spirituelle. Moi, je vois mon petit garçon, Ethan. Lorsqu'il est à côté de moi, il veut traverser la route. Hier, à la fin du mariage, il voulait traverser la route en plein milieu. Je lui ai repris la main et je lui ai dit, Ethan, il y a un passage sur lequel on... Tu vois, là où c'est blanc, on marche avec papa. C'est le passage piéton. C'est par là qu'il faut passer. Et Ethan, il ne fait pas ce qu'il veut. C'est moi qui le prends par la main et c'est moi qui lui dis, tu passes par là. Plus tard, quand tu seras grand, tu iras où tu veux. Mais pour l'instant, c'est moi ton père et tu passes sur le passage piéton. Et ça, c'est le fait d'être... Vous voyez, je l'assiste parce que c'est mon job, je suis son père. Pour l'instant, c'est un gamin, c'est un bébé. Il ne peut pas prendre la décision tout seul. Maintenant, ça me ferait quand même souci si à 24 ans, je dois encore amener Ethan par la main pour lui dire de passer sur un passage piéton. Parce que si toute ta vie spirituelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te prenne la main pour te dire là où tu dois traverser, il y a un problème quand même. Et la vie de Lot, c'est l'histoire d'Abraham, son tonton qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était avec les rois de Kedorlaomer et il l'a ramené. Merci tonton. Ok. Le problème, c'est que là, à Sodome, il y a des anges qui viennent te dire « bouge ». Et Lot, alors qu'il hésitait, Dieu est obligé d'amener deux personnes qui vont carrément l'embarquer. Vous avez compris l'idée? Manu Militari, ils ont pris Lot. Donne ta main. C'est un peu la honte quand même, à 45 ans, que quelqu'un te prenne la main. Les anges, ils ont pris la main de Lot tellement ils... Mais tu comprends l'amour de Dieu? Tu comprends l'amour de Dieu pour toi? Il a été prendre... Ils ont pris Lot par la main. Vous savez pourquoi il fallait deux anges? Parce qu'il y en avait quatre à faire sortir. Il y avait un qui donnait la main à Monsieur Lot. L'ange donnait son autre main à Madame Lot. L'autre ange donnait la main aux deux filles. Et ils les ont tirés comme ça à quatre. Tu as vu Dieu. Dieu t'a sauvé la peau. Tu as évité une vie qui aurait été brûlée. Mais le problème, c'est que jamais tu as été assez mature pour prendre des décisions qui pourraient faire que ta vie passe à l'âge adulte spirituellement. Il y a des décisions spirituelles que tu ne... C'est comme si tu subissais le salut de Dieu. Et puis, il y a beaucoup d'orgueil derrière. Il y a beaucoup d'orgueil parce que... La seule... Excusez-moi, je souris, mais ça me fait pitié. Mais la seule décision de maturité qu'a pris Lot dans sa vie, c'est la mauvaise. C'est quand il a quitté Abraham. La seule fois, il s'est rebellé à l'autorité. Il dit, j'en ai marre, je suis grand, je vire Abraham et je vais à Sodome. La seule fois où il a fait signe, preuve d'autorité, c'était pour prendre une mauvaise décision. Alors c'est facile, t'es une ado de dire « Oui maman, il y en a marre, je me rebelle contre toi, je suis une grande fille ». C'est pas pour ça que t'es une grande fille. c'est pas parce que tu dis « je veux pas faire comme toi » que t'es une grande fille. T'es une grande fille le jour où, en faisant tout seul, tu fais bien. C'est pas parce que tu fais pas comme les autres que tu fais bien. Tu fais bien lorsque tu auras démontré par les conséquences de tes choix sur le long terme que tu as assumé et que tu as construit quelque chose avec Dieu. Beaucoup d'orgueil. Et finalement, cette décision-là, ce n'était pas du courage auprès d'Abraham, c'était de l'orgueil. Lorsqu'il est retourné à Sodome et qu'il fait sa réunion de famille, là je suis désolé, je vais être vrai aussi, il a fait un choix là. C'était de se dire, on va se faire une réunion de famille, les enfants, et on va garder notre Bible et on va la lire ensemble. De toute façon, dans cette ville, il n'y a pas d'église. Okay ? Il a fait le choix de la ville dans laquelle il n'y avait pas d'église. Il n'était pas obligé d'aller à Sodome. Mais vous voyez comme c'est sa vie sociale largement en tête, et sa vie spirituelle, il assure le minimum, il privilégie jamais l'église, lui. Il met juste ça après. Mais bon, il se dit, on va faire notre petite culte à la maison et on va s'en sortir tous ensemble. Hein. Bon, et puis, est-ce que c'est mal ? Est-ce que vraiment, il y a besoin d'aller dans une église ? Ouais, puis, de toute façon, on peut faire l'église chez nous. Ben, je veux dire, et puis je ne sais pas si vous réalisez, mais les églises, elles sont cata quand même. Regarde, si on y pense un petit peu. Tu te rappelles quand on était dans l'église du pasteur Abraham ? Hein, les filles, vous vous rappelez du pasteur Abraham ? Vous vous rappelez l'ambiance que c'était au culte chez le pasteur Abraham ? Lorsque Sarah, madame pasteur, elle faisait la tête à l'autre qui était au fond, qui s'appelait Agar. Et qu'ils apportaient tous leur offrande à Dieu, mais qu'il y en avait un, Ismaël, qui faisait la tête, et il y avait des conflits tout le temps. Franchement, l'église, le pasteur, là, on a vécu des cultes où il n'y avait rien spirituellement. Il n'y avait rien de rien. Alors moi, si c'est pour aller dans une église dans laquelle je vois la femme du pasteur qui fait la tête aux petits jeunes au fond, enfin, franchement, ce n'est pas motivant d'aller à l'église. Écoutez, franchement, vous voyez, hein, Abraham, il fait comme il peut. Il a déjà du mal à gérer son église. Nous, on va faire notre culte de famille, ça nous suffira. Et ben ça, c'est de l'orgueil, mes amis. Parce que je préfère accepter les grands défauts de l'église d'Abraham. Parce qu'Abraham est très imparfait. Hein. Mais parce que je peux faire la morale sur l'église d'Abraham, dans laquelle Abraham fait un court-circuit par rapport à la bénédiction de Dieu et fait l'erreur de donner naissance à Ismaël. Mais quand je vois que toi, avec ton église maison, tu arrives à donner naissance après deux incestes avec ton père, je trouve que tu as fait pire encore. Alors tout ça pour ça, excuse-moi, mais tu aurais mieux fait de rester dans l'église d'Abraham. Parce que les bébés spirituels de ton église, nickel, familiale, ils sont encore plus décevants. La vie d'église, est-ce que c'est une priorité chez toi ? Moi, vous savez, question d'église qui ne vont pas bien, j'ai donné. Hein. Parce qu'avant d'être pasteur, j'ai été chrétien hein, dans une église. Et avant d'enseigner les autres, j'ai écouté des pasteurs parler. Et j'ai vu des églises vivre. Et j'ai vu ce que pouvait faire une église lorsque ça ne va pas bien. J'ai vu mes parents mais quitter une église, mais désespérés, mais pleurer, de dire « Mais Seigneur, pourquoi l'église est aussi catastrophique que ça ? Pourquoi on reçoit aussi peu le dimanche matin ? Pourquoi la louange, elle est aussi basse au niveau de la terre ? Pourquoi est-ce que l'ambiance dans l'église, elle est aussi méchante ?» Vous pouvez me dire tout, je sais, j'ai vécu aussi des églises comme ça. Mais je sais une chose, c'est que mon père m'a dit, Yvan, dans tous les cas, c'est pas parce qu'on quitte cette église qui ne va pas qu'on va se permettre de faire notre église chez nous. Dimanche prochain, on va dans une autre église et on en trouvera une parce que l'église, c'est la fiancée de Dieu. Et si on veut faire copain avec l'époux, il y a intérêt d'aimer l'épouse. Alors on va et il nous a amenés dans une église. Pff, c'était pas la joie. Hein. Le premier dimanche, c'est difficile. On n'arrive pas dans une église, on ne s'intègre pas le premier jour. Hein. Au début, je ne sais pas s'il y a des personnes qui déménagent à la rentrée, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Je me suis accroché parce que j'ai aimé l'église de Dieu. Aussi imparfaite qu'elle est, avec des gens comme moi, c'est normal. Avec des gens comme toi, elle n'est pas prête de s'améliorer non plus. Mais Dieu veille sur son église et il aime comme ça, il a fait progresser. Et j'ai appris, et mon père m'a dit, on ne rate pas un culte. Oui, mais papa, franchement, c'était nul dimanche dernier. On ne rate pas un culte. Espèce de légaliste. Oui, il y a peut-être un légaliste qui dort en moi. Mais ça te sauvera la vie. Le jour où l'orgueil te fait croire que tout seul, tu peux t'en sortir. Je vais être direct et je sais que vous n'allez peut-être pas m'aimer. Je vais peut-être avoir des emails par rapport à ce que je vais dire. Mais c'est des enfants qui vont payer les conséquences. Et je voudrais dire à tous les parents là, qui ont souffert dans une église, méfiez-vous de ce que vous allez dire à vos enfants. Parce que c'est vos filles qui porteront la conséquence de ça. Pour Lot, c'est ce qui s'est passé. Lot a eu des problèmes avec Abraham et c'est ses filles qui ont payé la note. Vous savez, Lot, il est sauvé. Hein. La Bible dit ce juste. Il est sauvé, il est au ciel. J'ai peur pour ses filles, par contre. Et je vais être vrai. Il y a des parents ici qui prient pour leurs enfants. Je ne sais pas si toi, tu pries pour ta fille qui a 17 ans. Je ne sais pas si tu pries pour ton garçon qui a 15 ans et tu veux qu'il tourne bien. Eh bien, je vais dire, arrête de prier tant que tu n'es pas capable de faire l'effort le samedi alors que tu es fatigué, de l'amener au groupe d'ados. Là où il peut rencontrer des chrétiens qui peuvent l'amener vers le haut. Et on va arrêter les discussions où c'est des grandes envolées spirituelles lyriques. Seigneur, prends soin de mes enfants. Dieu il dit, ok, tu veux prendre soin de tes enfants, investis dans tes parents, dans tes enfants. Si tu es capable de payer 15 euros pour qu'il aille au conservatoire pour prendre un instrument de musique et que tu es prêt à distribuer de l'argent et ça te prend autant de temps de l'amener au conservatoire, tu n'es pas prêt de l'amener à l'église. Parce que sinon, tu sais ce qu'il va devenir ? Un musicien. Il aurait pu être chrétien et musicien. Alors, tu sais, tes enfants, ils arriveront à comprendre où est-ce que tu veux les amener. Si pour toi, il n'y a que l'école, il finira peut-être par aimer l'école et être bon à l'école. Et il sera peut-être numéro un dans l'entreprise cadre qui gère l'entrée de la ville de Sodome. Alors, arrêtez de prier tant que vous n'êtes pas prêt à prendre les moyens pour que vos enfants ils aient vraiment une chance de s'en sortir. Si tu es une jeune fille et que tu arrives, tu es étudiant, je sais qu'il y en a ce matin, le message était prévu avant, mais il y a un moment où il va falloir que tu te positionnes dans ta vie spirituelle. Est-ce que le début, enfin moi je sais très bien, quand tu arrives dans une église, tu n'as pas forcément envie de faire la réunion de semaine. Même quand tu as des années de conversion, tu n'as pas forcément envie. Tu es fatigué, on est en région parisienne, etc. Ce n'est pas facile. Tu n'as pas envie d'aller au groupe authentique. Il y a des moments où c'est super, où tu y vas parce que tu as plein d'amis, mais des fois où tu vas tout seul et ça te coûte. Je suis en train de conclure là. Tu as combien d'amis chrétiens en fait ? Enfin, je pose la question autrement. Combien tu as d'amis ? Tout court. Oh. Faites pas semblant, vous en avez 1, 2, 3, 4 maximum. C'est très rare. Les vrais amis, ça se compte sur les doigts de la main et les doigts d'une main. Parmi ces doigts de la main, combien il y en a de chrétiens et combien il y en a qui ne connaissent pas Dieu ? C'est que toi qui peux répondre. Maintenant, moi, ce qui me fait souci, c'est si jamais il y a plus d'amis qui ne connaissent pas Dieu que d'amis chrétiens. Parce que ça veut dire que tu traînes plus de temps et que tu te lis plus avec des personnes qui ne t'amènent pas forcément vers Dieu. C'est bien d'avoir des amis qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est indispensable d'avoir des amis chrétiens. Mais pasteur, j'ai pas d'affinité avec les chrétiens. D'accord, ok. D'ailleurs, comment tu as fait pour avoir des affinités avec ces amis non chrétiens ? Tu sais, je vais te dire, tu as passé du temps avec eux. La vérité, c'est qu'au début, quand ils t'ont rencontré, ce n'étaient pas tes amis. Mais il s'est avéré soit que tu as passé ta scolarité avec eux, et la scolarité, c'est un paquet d'heures à l'école. Et forcément, tu as passé tellement d'heures avec eux que tu as fini par être ami avec eux. Parce que c'est sur le long terme qu'ils sont devenus tes vrais amis. Et les personnes que tu as rencontrées peut-être au travail, c'est parce que tu as fait 5 jours sur 7, 8 heures par jour. Et donc, elle est vraiment devenue ton amie. Bon, à l'église, tu as passé combien de temps ? Une heure et demie, parce que le culte, ça dure une heure et demie. J'ai passé une heure et demie. Mais je n'ai pas d'affinité. Non, mais à une heure et demie, nulle part, tu as des affinités, hein. Maintenant, je vais te dire une autre chose. Si je te parachute en plein milieu de la forêt amazonienne, sans portable, sans GPS, juste paumé, au milieu d'une tribu, là, la vérité, c'est qu'au bout de quelques jours, tu vas passer tellement de temps avec eux que tu vas finir par avoir un ami. C'est vrai. Tu vas tomber sur quelqu'un d'un peu space, mais au début, ça sera bizarre, mais tu vas finir par connecter avec cette personne. Par rapport à tous, c'est plutôt lui, mon ami. Et vu que tu n'as que lui, eh ben tu finiras par être bon ami même. Donc arrête de me dire que tu n'as pas d'amis à l'église. Tu n'as pas d'amis à l'église parce que tu ne passes pas de temps à l'église. Est-ce que tu es prêt à ce que ça change ? Moi, je suis à ma conclusion, mais ce qui me désespérerait ce matin, c'est qu'à la fin, vous disiez comme la fille de Lot, oh, Dieu nous a touchés, un ange nous a parlé, on a été comme... Et tu ne changes rien demain matin. Moi, cette prédication, elle ne sert à rien si ça ne change pas lundi. Si tu ne prends pas des décisions pour dire, voilà, à partir de ce lundi-là, je vais démarrer, je vais mettre des positions dans ma vie, je vais prendre des décisions. Je vais arrêter d'être une bébé spirituelle qu'il faut que quelqu'un te tire pour que tu fasses un culte personnel, qu'il faut que quelqu'un t'attire pour que tu viennes à l'église. Ok, j'y vais, point barre. Je me mets, je ne sais pas, je ne peux pas t'imposer à venir à une réunion, c'est toi qui choisis. Mais c'est toi qui sais où est-ce que tu veux aller. Et si tu veux aller quelque part parce que Dieu a des beaux projets pour toi, eh ben, prends les moyens d'y aller. Je termine parce que j'ai une pensée, parce que ce n'est pas évident pour ces deux filles. On a commencé par elles, je vais conclure par elles. Ces deux filles célibataires là, qui se retrouvent dans la caverne. Ce sera la dernière occasion pour m'envoyer un mail après la prédication. Mais il y a deux mythes, deux erreurs que les croyants et les croyantes font dans le domaine sentimental. L'erreur, c'est le mythe de Tsoar, une des premières erreurs, et l'autre mythe, c'est le mythe de la caverne. Le mythe de Tsoar, c'est de se dire il ne se passe rien ici. Il y a une petite ville à côté de Tsoar, ben, je vais peut-être trouver quelqu'un que je vais convertir. Mais le problème, c'est qu'à Tsoar, ils sont aussi tordus qu'à Sodome. Alors tu vas essayer, tu vas ramer, tu vas investir, tu vas essayer de le convertir. Et puis à la fin, tu seras complètement déprimé. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas toi qui convertis la personne, c'est si Dieu l'a appelé, tu donnes des paroles et c'est pas, tu n'as pas besoin de flirter pour qu'il se convertisse. Si ça vient de Dieu, mets les distances, tu donnes la parole et si la personne se tourne vers Dieu, alors ça sera un enfant d'Abraham. Ben alors autant directement aller dans la tribu d'Abraham. Parce qu'ils t'attendent sur Mamré. C'était des milliers, hein, la tribu d'Abraham. Seulement leur orgueil, je ne vais pas retourner là-bas, j'y étais avant, etc. Et puis le deuxième mythe, c'est le mythe de la caverne. Et ça, c'est aussi dur parce qu'il peut être très spirituel dans un premier temps. C'est de se dire, Seigneur, tu vois papa Lot, c'est injuste. Il a essayé de s'en sortir pour Dieu, et même à Tsoar, ça ne s'est pas très bien passé, ça ne s'est pas très bien passé à Sodome, ça ne s'est pas très bien passé nulle part, en fait, d'ailleurs, parce que chez Abraham, ça ne se passait pas bien, à Sodome, ça ne se passait pas bien, et puis maintenant, dans la caverne, ça ne se passe pas bien. Au lieu de se dire, on a un problème, bon, je continue. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait un homme beau, intelligent, gentil, et qui ait une situation correcte quand même, parce que vu qu'on a pas mal ramé depuis quelque temps, enfin, tu me l'envoies et puis il me fait une déclaration et moi je l'épouse, Seigneur. Alors si ce n'est pas possible, vu que je suis dans une caverne, si tu peux transformer une pierre, voilà. Parce que j'ai vu qu'à Walt Disney, il suffit d'un bisou et des fois ça... Mais ça ne marche pas, ça. Mais rigolez pas parce que vous l'avez tous fait. Tous les personnes célibataires en jouant en fait. Et c'est le fait de se dire, Dieu va faire un miracle de fou dans ma caverne, il va m'amener quelqu'un. Mais c'est dangereux parce qu'avec le temps, tu mets un ultimatum à Dieu. Et tu dis, tic, tac, Seigneur, le temps passe. Si la pierre, elle n'est pas transformée dans quelques années, vu que j'ai... Et Dieu sait qu'elles ont envie d'avoir un bébé, vous comprenez ça? Dieu le sait, leur Père Céleste sait. Mais maintenant, il y a des décisions qu'elles doivent prendre qui n'est pas bonne. La seule décision, si tu veux... Tu veux qui? Tu veux qui? Tu veux qui comme conjoint? C'est ça que tu dois te poser comme question. Et où est-ce que tu peux le trouver? Prends les moyens. Enfin, franchement, si j'ai envie d'aller acheter un parfum, je vais dans une parfumerie, quoi. Vous prenez les moyens d'aller chercher ce que vous voulez et vous mettez les critères avant. Si je veux un chrétien, où est-ce que je vais le trouver? Ben, parmi les chrétiens. Et puis, ça dépend, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il y a chrétien et chrétien, quand même. Hein. Je ne vais pas plus vous dire... Il y en a qui ont juste le logo, là, mais à l'intérieur, on ne sait pas trop. Mais vous allez voir où est-ce que les personnes sont vraiment impliqués. Moi, j'ai entendu une phrase qui m'a rappelé des choses. C'est un pasteur, donc du coup, je me sens un peu protégé de le dire. Il m'a dit, Yvan, franchement, il est marié, très bien marié, hein, très très bien marié. Moi aussi, je suis très très bien marié. Il dit, Yvan, franchement, si j'étais célibataire et si j'avais de nouveau 22 ans, je ne ferais pas une erreur, j'irais faire un camp d'évangélisation. Parce que là-bas, il se passe des choses, on peut toucher les vies, on impacte, et plus c'est affinité. Parce que c'est là, tu dis, mais j'ai jamais vu des personnes si motivées pour Dieu, mais des gens bien. Et je me dis, franchement, c'est ce que j'aurais fait. Je dis, bien sûr, tu as raison. Puisque tu es passionné pour Dieu et que tu veux une femme passionnée pour Dieu, bah, va la chercher là où elle existe. Puisque tu es une fille, tu veux un gars motivé pour Dieu, va le trouver là où il y en a des comme ça. Sur Internet, il y en a peu. Hein. Enfin, je veux dire, motivé par Dieu. C'est peut-être ailleurs qu'ils sont, hein, les vraiment motivés par Dieu. Mais il y a un moment, tu sors de ta caverne et tu vas vraiment là où se trouve sur les chaînes de Mamré. Je suis sûr qu'il y a dans le pays de Dieu, parmi les fils et les filles d'Abraham, une génération choisie dont tu dois faire partie. Et le plan de Dieu, c'est que tu fasses partie de cette génération choisie. Tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham. Et Dieu a des bonnes choses, du pain dans la maison de Dieu. On va fermer les yeux ensemble. Où est-ce que tu en es dans ta vie sentimentale? Mais où est-ce que tu en es dans ta vie sociale? Parce que tout est lié. Ta vie sociale déterminera ta vie d'église. Ta vie d'église déterminera ta vie sentimentale. Où est-ce que tu veux passer du temps au mois de septembre? Avec qui veux-tu passer du temps au mois de septembre? Quelle est ta priorité dans ton culte spirituel? Qu'est-ce que tu as prévu de faire demain matin concrètement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es prêt à changer? Mais pasteur, c'est pas parce que je retourne forcément dans le pays d'Abraham que je vais trouver la semaine prochaine. Non, tu ne trouveras pas la semaine prochaine. Mais je sais une chose, c'est que Dieu qui construit sur le long terme veut construire un projet de vie avec toi. Il veut construire et il a prévu un projet de long terme. Et la décision, c'est aujourd'hui. Ce jour où ta vie a changé ou n'a pas changé. On va garder un temps de silence. La décision que tu veux prendre maintenant. Je ne te vais pas demander un appel parce que des appels, tu as trop répondu à des appels déjà. Tu t'es levé trop de fois. Comme ces filles de Lot, elles se sont levées lorsque les anges les ont embarquées. Ce n'est pas un appel que tu as besoin. C'est des décisions maintenant. Tu as connu trop d'émotions spirituelles presque. Maintenant, c'est une question de décision. Je vais demander à l'équipe de louange de. Eux vont commencer à louer Dieu. Ils vont parler de la décision qu'ils ont prise avec Dieu. Et toi, pendant ce temps, tu réfléchis. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie?
Je sais que tu sauras me guider à chaque pas.